à tous et bienvenue sur l'émission
Les Pieds sur Terre. Aujourd'hui, nous allons vous présenter quelques intervenants sur la planète en danger.
Et oui, beaucoup d'entre eux se préoccupent de notre planète et essaient de trouver des solutions pour demain.
Nous sommes donc là pour vous donner toutes les réponses à vos questions.
Et pour cela, nous allons recevoir Cyril Dion.
Cinéma, un jour, un film.
Bonjour Cyril, vous êtes réalisateur du film Demain. En quoi consiste votre métier ?
Bonjour à tous. Le métier de réalisateur, c'est d'être le responsable de la réalisation d'un film ou d'un documentaire. J'ai le rôle de création, d'encadrement et de management d'équipe sur les plans techniques et artistiques.
Et d'où vient cette idée ?
L'idée du film est de Mélanie Laurent. À l'époque, elle était enceinte et elle a pensé au futur pour nos enfants pour chercher des solutions pour l'avenir.
Quel est le but principal du film ?
Le but principal du film Demain est de montrer des solutions pour permettre de résoudre les crises écologiques, économiques et sociales que traverse le monde. Demain est le premier film qui réinvente le monde du futur à partir des meilleures solutions d'aujourd'hui. Notre film participatif est réalisé par Mélanie Laurent et moi-même.
Merci Cyril. On va continuer le point culture avec Clara.
La critique littéraire.
La critique littéraire.
La critique littéraire.
Bonjour Clara, vous êtes critique de livres de jeunesse. Pouvez-vous nous présenter votre métier ?
Bonjour, je m'appelle Clara Léon. Je suis critique littéraire de livres jeunesse. Je suis mon propre patron. Beaucoup de personnes pensent que la critique est forcément négative, alors que c'est absolument faux. Des éditeurs de livres, journaux, demandent de l'aide sur les livres, les films, etc.
Quels sont les livres qui sensibilisent les ados sur l'écologie ?
Aujourd'hui, je vous ai choisi trois livres pour jeunes adolescents. Tempête sur l'Erika, Debout les terriens et Céleste ma planète. Le premier parle de marée noire. Il intéresse beaucoup les jeunes car il parle d'écosystèmes et d'oiseaux. Debout les terriens est très facile à lire car le commencer de la moitié n'endommage pas la lecture. Céleste ma planète parle d'une histoire d'amour en abordant tout doucement le sujet de l'écologie. Il y a aussi les livres notables comme Silence on ira dit et Bleu toxique de Christophe Léon ou L'héritage d'Anna écrit par le célèbre Jostein Gaarder connu pour son livre Le monde de Sophie.
Merci Clara.
On arrête avec la culture et on se dirige vers les spécialistes.
Les spécialistes dans les pieds sur terre.
Les pieds sur terre.
Bonjour Nathalie Legentil, vous êtes spécialiste de l'ADEME. Pouvez-vous nous dire ce qu'est l'ADEME ?
Bonjour, donc l'ADEME c'est une agence de l'économie et de la maîtrise de l'énergie. On participe à la mise en œuvre des politiques publiques comme celle de l'environnement, l'énergie et du développement durable. Pour qu'ils progressent dans leur démarche, l'ADEME met à disposition des entreprises ses capacités d'expertise et de conseil. Elle aide aussi au financement des projets.
Et comment agir au quotidien ?
Alors pour les déchets, il faut savoir qu'on produit près de 600 kg de déchets par an, deux fois plus qu'il y a 40 ans. Pour diminuer ces chiffres, on a des conseils qui existent comme donner, réparer, vendre, composter, réutiliser et réduire le gaspillage alimentaire. D'ailleurs, il n'y a pas que pour les déchets, il y a aussi pour les déplacements, par exemple faire du covoiturage ou prendre le train au lieu de prendre la voiture. Et puis après, il y a aussi pour nos achats de la vie quotidienne, ils n'ont pas le même impact sur l'environnement. Pour agir, on peut sélectionner des produits plus respectueux de l'environnement et changer notre façon de les utiliser. D'autres conseils sont à découvrir sur notre site www.adem.fr, rubrique particulier éco-citoyen.
Merci Nathalie.
Les associés du ministre de l'écologie.
Nous sommes maintenant avec un groupe d'associés au ministre de l'écologie, Nicolas Hulot. Bonjour mesdames, qu'est-ce que la loi de transition pour la croissance verte ?
Bonjour. Cette loi a été publiée au journal officiel du 18 août 2015. Elle vise à permettre à la France de contribuer plus efficacement à la lutte contre le dérèglement climatique et à la préservation de l'environnement. Elle tente de renforcer son indépendance énergétique.
Qu'est-ce qu'un territoire à l'énergie positive pour la croissance verte ?
C'est tout d'abord plus d'économies d'énergie avec l'isolation de combles ou de toitures, plus de transports propres, véhicules hybrides ou électriques, plus d'énergie renouvelable, l'énergie solaire photovoltaïque, plus de tri pour recycler, plus de biodiversité et plus d'éducation à l'environnement. Les objectifs. Son objectif pour 2030, c'est de réduire de 40% les gaz à effet de serre. La consommation énergétique finale sera divisée par 2 par rapport à 2012. Et la part des énergies renouvelables sera portée à 32% en 2030.
Qui est le nouveau ministre de l'écologie ?
C'est Nicolas Hulot. Alors pour son histoire, en 2002, il a refusé de devenir ministre de l'écologie. C'était Jacques Chirac qui lui avait proposé. mais il a écrit le discours de Jacques Chirac lors du sommet de la Terre en Afrique du Sud. 6 ans plus tard, en 2008, il a proposé un pacte écologique au candidat de la présidentielle. Le nouveau président, Nicolas Sarkozy, lui a proposé d'être ministre. Il a aussi refusé. En 2015, il a participé à l'organisation et au succès de la COP21 à Paris. Et enfin, le 17 mai 2017, il accepte de devenir ministre de l'écologie. C'est au sein du gouvernement d'Édouard Philippe.
Qu'est-ce qu'il a réellement décidé ?
Il s'est exprimé au journal du dimanche en disant « J'ai l'impression qu'il y a un moment favorable. C'est l'instant T, le bon moment pour agir. Un espoir s'est levé pendant la campagne, on le sent bien. Selon Nicolas Hulot, nous sommes au bord d'un point de rupture physique, psychique, politique. Il faut agir vite. »
Merci mesdames.
Les scientifiques vous expliquent. Les scientifiques vous expliquent.
Partie 1.
Maintenant, concentrons-nous sur le réchauffement climatique. Bonjour Nathan, vous êtes scientifique. Qu'est-ce que le réchauffement climatique ?
Bonjour. Le réchauffement climatique, c'est une augmentation de la température à la surface de la Terre. Comme vous le savez, le phénomène est dû aux gaz rejetés en excès dans l'atmosphère par les activités humaines. Ce bouleversement n'est pas une fatalité. Nous pouvons sérieusement le limiter en réduisant chacun dès maintenant nos rejets polluants. Tous les gaz à effet de serre n'ont pas la même capacité à retenir la chaleur. Ils piègent plus ou moins fortement les infrarouges émis par la Terre. De plus, ils n'ont pas la même durée de vie. Plus un gaz à effet de serre met du temps à disparaître, plus la capacité à réchauffer l'atmosphère est importante.
Quelles sont ses causes ?
Sur Terre, les gaz à effet de serre ne représentent qu'une petite portion de l'atmosphère. Ces gaz jouent pourtant un rôle déterminant dans le maintien d'une température terrestre propice à la vie. Et leur équilibre est très fragile. Toute modification de leur concentration est susceptible de déstabiliser l'équilibre climatique.
Merci à vous.
Les scientifiques vous expliquent.
Partie 2.
Bonjour Tristan, vous êtes vous aussi scientifique. Quelles sont les conséquences du réchauffement climatique ?
Eh bien, en termes de température, dans les années 1950, les températures moyennes étaient de 10 degrés. Alors qu'aujourd'hui, elles sont d'environ 12 degrés. D'ici 2100, elles feront environ 16 degrés en moyenne. Donc on gagne environ 2 degrés supplémentaires tous les 1/2 siècle. Et ça continuera à augmenter de plus en plus. Comme les glaciers fondent, il y a pour conséquence l'augmentation du niveau des océans, ce qui obligerait à beaucoup de civils vivant sur les côtes de se déplacer vers le centre des continents. Et le niveau des fleuves et des rivières risque de diminuer. Pour la météo, à l'époque, il y avait autant de précipitations que de sécheresses sur l'ensemble du globe. Aujourd'hui, il y a une légère augmentation des précipitations au nord et de plus fortes sécheresses au sud. Il est estimé d'ici 2100 beaucoup plus de précipitations au nord et de beaucoup plus longues et fortes sécheresses au sud.
Merci Tristan.
Le grand débat, le grand débat, le grand débat avec les pieds sur terre.
Le nucléaire, c'est une énergie très utilisée dans le monde, mais qui fait débat.
Donc pour ça, nous recevons 2 scientifiques d'Areva, donc pour le nucléaire, Tom et Mathieu.
Face à eux, des membres du réseau Action Climat, Lucie, Chloé et Émilie.
Bonjour à vous et bienvenue.
Bonjour.
Messieurs, pouvez-vous vous présenter et présenter votre supérieur ?
Bonjour mesdames.
Bonjour.
Nous sommes effectivement 2 scientifiques d'Areva. Areva, qui est pour le petit rappel, une des plus importantes entreprises mondiales dans le secteur nucléaire. Nous représentons aussi Bertrand Barré, notre supérieur, ancien directeur de la communication scientifique à Areva, maintenant retraité.
Et vous, Lucie, Chloé et Émilie, vous représentez Réseau Action Climat ?
Parfaitement. Notre association est basée sur le thème des changements climatiques. Elle est fondée en 1996. Notre réseau mondial incite les gouvernements et les citoyens pour limiter les impacts sur le climat.
Grand débat avec les pieds sur terre.
Pour la première question, Areva, en quoi l'énergie nucléaire est-elle indispensable à l'avenir ?
Alors, le nucléaire, c'est une source d'énergie durable qui fournit énormément d'énergie. Il faut savoir que c'est 80% de l'énergie en France qui est produite par les centrales nucléaires. Donc c'est un chiffre considérable qu'on ne peut pas laisser sur le côté.
Mais pour vous, ce n'est pas une solution d'avenir ?
En effet, le nucléaire est très dangereux et très coûteux. Il soumet tous les êtres vivants à des pollutions. Il crée une menace inacceptable et il ne freine pas le réchauffement climatique. Le nucléaire produit des milliers de tonnes de déchets toxiques ingérables. D'une part, il soumet les familles à des habitudes de consommation insoutenables. D'autre part, l'action du nucléaire est limitée au champ de l'électricité, alors que de nombreuses autres options existent. Tout ceci avec des énergies naturelles, thermiques, électriques, aériennes, hydrauliques et géothermiques, avec le photovoltaïque, les éoliennes, les moulins...
Les moulins à eau ? Vous voulez retourner au Moyen-Âge ? Non. Il nous faut évoluer, nous développer. Pour nous développer, il faut de l'énergie. Je vous le rappelle, le nucléaire produit 80% d'électricité française. Et faire des expériences scientifiques à la bougie est impensable.
Les pieds sur terre, le grand débat.
Avez-vous des exemples d'accidents qui impliquent le nucléaire ?
Excusez-moi, mais il y a plus d'une vingtaine d'accidents dans le monde. Notamment en Ukraine avec Tchernobyl et en France avec Saint-Laurent-des-Eaux.
Vous avez parlé de Tchernobyl, on peut effectivement en parler. Faut savoir que la célèbre catastrophe n'a pas été causée seulement par l'uranium. C'est en effet des scientifiques qui ont fait une erreur. Deux scientifiques ont fait surchauffer le réacteur, ce qui a fait monter la température ainsi que la pression. C'est ça qui a causé l'explosion. Cet accident est en effet regrettable, mais des mesures ont été prises pour limiter les radiations. Par exemple, un dôme a été construit et mis en place par Areva. Aujourd'hui, les radiations ont fortement baissé et la faune et la flore se redéveloppent.
Et qu'est-ce que vous faites de tous vos déchets ?
Alors, les usines nucléaires ne produisent aucun gaz polluant et n'émettent aucun gaz à effet de serre, contrairement à vos usines photovoltaïques qui sont assez polluantes au moment de leur construction et pendant leur mise en marche. Ensuite, les déchets nucléaires sont peu nombreux. Ils sont très bien stockés et très bien sécurisés. Et puis, il ne faut pas oublier que des mesures ont été mises en place pour réduire totalement les déchets polluants, comme le réacteur 4.
Oui, on peut en parler, le réacteur 4 produira 100 fois plus d'énergie.
100 fois plus. Je pense que vous ne vous rendez pas compte.
Non, vous ne vous rendez pas compte, là. Et nous savons déjà comment faire. Nous sommes actuellement sur le modèle économique, mais lorsque l'uranium se fera plus rare, nous passerons sur ce modèle. Ce modèle ne créera plus de déchets radioactifs et une usine suffira pour couvrir tous les besoins énergétiques français.
Et que deviendront les 50 usines restantes ? Bonjour le nombre de chômeurs !
Alors, il y a un grand plan de reconversion qui a été mis en place par Areva pour les employés. Et puis, on ne va pas enlever toutes les usines de France. On va en garder, bien sûr. Et comme je l'ai dit, les usines vont s'arrêter progressivement. On va aider les anciens employés à retrouver des emplois. Mais le plus grand nombre vont être quand même envoyés au réacteur 4. Et pour la question concernant la durée de vie de l'uranium, Areva est sur un projet, celui de...
Thorium, qui permettra de produire 200 fois plus que les usines actuelles, soit 2 fois plus que le réacteur 4, et en beaucoup plus grande quantité sur la planète, et ne créera pas de déchets radioactifs.
Eh bien alors, comment vous expliquez qu'autant de pays sortent du nucléaire ?
Alors, beaucoup de pays ont peur du nucléaire, effectivement. Ces pays confondent souvent l'arme nucléaire et l'énergie. Puis ça peut être un choix économique, un choix social. Ça reste quand même un sujet avec des pour et des contre.
Merci à vous pour ce débat fort polémique. Et voilà, l'émission touche à sa fin. Merci à ses invités.
Et merci à vous de nous avoir écoutés. On espère qu'on vous a aidé à répondre à vos questions. Bonne journée
et au revoir.